vous êtes bien sur une émission de Radio Saint-Ferréol.
Ici et d'ailleurs, une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
Un invité.
Son témoignage.
Son parcours.
Son expérience.
Ses chroniques.
Géopolitique.
Juridique.
Linguistique. C'est ma vie et je veux qu'elle soit belle. Nous avons voulu commencer cet épisode par cette phrase prononcée par notre invité José lors de notre première rencontre. Bonjour José.
Bonjour.
Tu vis à Saillant depuis une douzaine d'années et tu viens de Hollande. Où est-ce que tu as vécu en Hollande? Dans quelle ville?
Dans, Etten-Leur. C'est très difficile à prononcer en français, mais tout près de Breda.
Et tu as toujours vécu là-bas?
Non.
Tu as bougé en Hollande dans différents parties?
Oui, j'ai bougé beaucoup, oui.
Beaucoup de gens savent en gros où est la Hollande ou les Pays-Bas, mais nous avons pensé faire un bref état des lieux avant de revenir vers toi, José, pour spécifier déjà pourquoi Pays-Bas, pourquoi Hollande. Donc je vais passer la parole à Sylviane et puis on revient à toi et ton histoire un peu plus tard.
D'accord.
Bonsoir José. Je vais donc faire une chronique mi-politique, mi-sociétale pour nous faire découvrir les Pays-Bas actuels. Les Pays-Bas, qui ont un peu moins de 18 millions d'habitants, se composent des deux Hollande, l'une septentrionale au nord et l'autre méridionale au sud. Et dans les Caraïbes, trois îles, Saint-Martin, Curaçao et Aruba, trois territoires autonomes. Depuis 2020, on ne parle plus de Hollande, mais de Pays-Bas, dont la capitale est Amsterdam et dont le siège du gouvernement est à La Haye. Les Pays-Bas font partie de l'Europe et de l'OTAN. Le PIB par habitant et la densité de population sont parmi les plus élevés d'Europe. C'est un gros pays exportateur avec de nombreux ports très importants, dont Rotterdam. Par exemple, malgré sa surface, les Pays-Bas sont le deuxième exportateur agricole mondial. La solidité de la structure économique résultait de son modèle basé sur des négociations collectives et un dialogue social très développé, bénéficiant d'un soutien institutionnel. Mais est-ce toujours le cas? Au niveau politique, les Pays-Bas sont une monarchie parlementaire avec un système bicaméral. Le bicamérisme est un système d'organisation politique qui divise le Parlement en deux chambres distinctes, une chambre haute et une chambre basse, l'une représentant le peuple et l'autre des entités administratives. La deuxième chambre est élue avec une proportionnelle intégrale, ce qui aboutit fréquemment à la formation d'un gouvernement de coalition. En 2010, Mark Rutte devient pour la première fois ministre-président. Son parti, le VVD, Parti populaire pour la liberté et la démocratie de centre-droit, doit s'allier avec le Parti du travail social-démocrate. Il démissionne en 2012 en raison de désaccords sur l'austérité mise en place suite à la crise économique de 2008, austérité qui aura des répercussions jusqu'en 2014. Mark Rutte est réélu en 2012, 2017, 2021. Après 13 ans au pouvoir, il se retire de la vie politique suite à un désaveu électoral. Les élections législatives anticipées en juillet 2023 ont vu la victoire du Parti de la Liberté, le PVV, un parti d'extrême droite dirigé par Geert Wilders, islamophobe et eurosceptique, qui pourrait faire craindre une sortie de l'Europe. Mais une coalition gouvernementale, actuellement toujours en pourparlers, avec les partis centristes et de droite, pourrait empêcher Geert Wilders de prendre le pouvoir. Il y aurait alors peut-être un prix à payer par la suite auprès des électeurs néerlandais en colère. Au niveau du Sénat, c'est le mouvement agriculteur citoyen, le BBB, qui remporte les élections. Il est caractérisé par des tendances populistes et rurales et s'oppose aux plans environnementaux du gouvernement. Ces plans devaient s'atteler à la nécessaire réduction des dérivés azotés et diminuer ainsi fortement la production agricole. En conclusion, les Pays-Bas connaissent, comme partout en Europe, une montée de la droite et de l'extrême droite populiste. La question est dans quelle mesure des politiques plus conservatrices et xénophobes affecteront la population. Les Néerlandais ont un mode de vie sans complexe, ouvert d'esprit et convivial. Il y a un excellent équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, avec une hiérarchie horizontale et une plus grande égalité hommes-femmes. Ils sont tolérants sur de nombreux sujets, tels que la diversité culturelle et les droits LGBTQI+, la consommation de cannabis partiellement légalisée, par exemple. Le sport, comme le foot et le patinage, occupe une place très importante. Le cyclisme est profondément enraciné dans la culture et les villes sont très adaptées au vélo. Ils sont aussi passionnés de jardinage et les champs de tulipes sont emblématiques du printemps aux Pays-Bas. Le système éducatif néerlandais, caractérisé par sa diversité de parcours, vise à réduire les inégalités sociales et met l'accent sur l'autonomie de l'élève. De ce fait, les jeunes ont un engagement très développé, dont les causes sociales et environnementales. Ils participent à de nombreux échanges avec d'autres pays ou travaillent à l'étranger. Cependant, des préoccupations subsistent quant à l'écart de performance entre les élèves de différentes origines socio-économiques. Au niveau culturel, il y a une longue tradition artistique, notamment à l'époque de l'âge d'or hollandais au XVIIe siècle, avec Rembrandt et Vermeer. Van Gogh est bien sûr un digne successeur. Il y a de nombreux festivals de musique très populaires. La fête nationale en avril, le Koningsdag, jour du roi, est très suivie. Il y a aussi la grande tradition des cabaretiers, qui sont des artistes polyvalents avec des performances artistiques complètes, musique, chant, danse, poésie. Ils manipulent la satire sociale et politique et interagissent avec le public. Voilà pour cette petite chronique.
Merci Sylviane. José, j'ai vu quelques réactions sur ton visage avant de parler à proprement dit de ton histoire. Est-ce que tu as des commentaires à faire sur ce que Sylviane vient de dire ?
Oui, surtout la tolérance, c'est plus comme avant. Voilà. Et bon, on le voit avec l'élection de Geert Wilders, c'était vraiment un choc. Pour moi, oui.
Tu t'y attendais pas. T'as pas senti dans la population une évolution, si?
Oui, oui. C'est vraiment le fait qu'on est beaucoup plus à droite et plus anti-immigration. Et ça m'a choqué, vraiment. Oui.
Est-ce que tu le ressens dans la société de tous les jours, on va dire?
Bon, avec 18 millions de personnes dans un tout petit pays, on le sent vraiment. Et même avant, on l'a senti dans mon travail. Et ça, c'était pas bien du tout.
Mm-hmm. Ben, on pourrait peut-être parler de ton travail, alors.
Oui, je pensais partir avec un ordre chronologique, mais pourquoi pas, puisque tu parles de ton travail, on parlera de l'enfance après. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que tu faisais comme travail?
Bon, j'ai travaillé 4 jours par semaine pour le gouvernement dans le service d'immigration. Et ça, c'était d'abord faire des entretiens avec les demandeurs d'asile. Et il faut en même temps faire un rapport. Et sur le rapport de collègues, et je devais prendre une décision s'ils pouvaient rester ou non. Voilà.
Ça correspond un peu au travail d'officier de protection des demandeurs d'asile.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu as le sentiment que c'était vraiment une protection ou c'était...
Non, pas tellement, non.
Non, ça avait plutôt chercher à débouter le plus de monde. Ou pas, à refuser le plus de monde.
Il y avait des collègues qui l'ont essayé, mais moi j'ai essayé de faire le contraire, voilà.
Parce que en France c'est assez caractéristique, enfin, les gens qui travaillent pour l'OFPRA. Donc en France il y a l'étude d'abord des dossiers en amont de l'entretien. Donc c'est pareil aux Pays-Bas. Tu avais les dossiers des personnes que tu allais avoir en entretien à étudier?
Non, parce que ils arrivent chez nous d'un centre de réfugiés.
Hébergement.
Oui. Et c'est le jour même qu'on reçoit le rapport. Oui.
En même temps que tu découvres la personne, tu découvres son histoire.
Oui.
Et après, tu dois faire le bilan, enfin les commentaires sur l'entretien que tu as eu.
Sur l'entretien d'un collègue, parce que il faut pas que on a vu la personne, parce qu'on a toujours des préjugés.
Positif ou négatif?
Les deux.
Les deux.
Les deux, oui. Et c'est pourquoi il faut décider sur le rapport d'un collègue. Voilà.
Pas sur celui que tu as
non.
eu, toi.
Non.
D'accord. Et en France, sur la demande, la demande d'asile et la politique de l'OFPRA, souvent, on entend dire qu'il y a des pays, en fait, qui sont considérés comme sûrs et où, de toute manière, comment se passe l'entretien, de quelque façon que se passe l'entretien, ces personnes n'auront pas le droit d'asile. Est-ce que c'est pareil aux Pays-Bas?
Je trouve que le gouvernement dit souvent trop vite qu'un pays est sûr. Et je me dis, va toi-même pour regarder que ce n'est pas sûr du tout. Ça, je n'ai pas aimé.
Et est-ce que ça faisait partie de ton travail d'aller justement faire des enquêtes dans les pays concernés ou pas du tout?
Non.
Parce qu'en France, je sais que certains officiers de protection, je n'aime pas tellement utiliser ce mot, vont dans les pays faire des enquêtes aussi.
Oui, mais, pas nous, on reste. Pas,
non, vous, non, vous restez aux Pays-Bas.
Oui.
Et du coup, est-ce qu'il y a une liste de pays qui sont en guerre et pour lesquels les réfugiés sont reconnus comme ayant un droit à rester?
Oui, oui. Oui, et en principe, ils ont un droit durant un an. Et après cette année, on va regarder si la guerre, par exemple, existe toujours ou non. Ça, on peut donner encore un an, mais en principe, on donne un an de le droit de rester. Oui.
Il n'y a pas d'immigration choisie aux Pays-Bas. Vous n'allez pas chercher des gens économiquement, quoi.
Si, parce que on n'a pas assez de personnel. Par exemple, dans une usine de chips à Veldhoven, tout près d'Eindhoven, on attire beaucoup de gens qui travaillent là. C'est, oui.
Mm-hmm. Oui, malgré tout, vous avez besoin un peu d'immigration.
Oui, absolument.
Oui. Oui, c'est vrai.
Et tu disais qu'il y avait un an, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui obtient le droit d'asile, qui est reconnu comme réfugié, il n'a pas d'emblée 10 ans.
Non, non,
ça
dépend.
Pas.
Quand il y a une guerre, par exemple, c'est d'abord un an, et après cette année, on va voir si la guerre est toujours en train ou existe toujours. Et on va se décider peut-être un autre an. Non, ce n'est pas tout de suite 10 ans, non.
Même pour quelqu'un, par exemple, qui est reconnu, accepté comme homosexuel ou d'une religion différente de celle de son pays et qui risque d'être emprisonné, même condamné à mort, il n'y a pas la protection de 10 ans.
Mais c'est toujours personnellement. Hein, c'est chaque dossier qu'on regarde et qu'on estime. Et par exemple, oui, les homosexuels, quand ils ont vraiment pu montrer que... Mais c'est surtout... C'est le gouvernement quand ils ont... comment dirais-je persécuté, par le gouvernement, là, si, ils auront vraiment le droit de rester.
Oui. Donc, avec des cartes de résident de 10 ans ou plus, ou comment ça se passe?
Quand quelqu'un a vraiment montré qu'il est persécuté par le gouvernement Et bon, il faut vraiment le montrer. Hein. Ça, on peut lui donner un droit de rester, mais définitivement.
D'accord. Et c'est très dur souvent de le montrer, mais...
C'est ça, oui.
Claire, tu voulais...
Oui, j'aurais une question. Est-ce que le fait que, traditionnellement, la Hollande a, et historiquement, a une histoire particulière avec la migration, dans le sens où les Hollandais eux-mêmes ont beaucoup voyagé, ont immigré eux-mêmes, c'est aussi un petit pays qui est très ouvert sur l'international, parce qu'il y a un grand port. On a signalé tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient travailler à l'étranger, etc. Donc, le fait de se concevoir soi-même comme un peuple qui immigre, qui voyage, etc., est-ce que ça fait que, à l'inverse, on a un esprit un petit peu différent de l'accueil des autres qu'en France? Est-ce que tu sens qu'il y a un esprit un peu différent?
Ah oui. Autrefois, on dit que c'était vraiment plus tolérant qu'aujourd'hui. D'accord. Et on le voit déjà dans les votes pour Geert Wilders. Ça, c'était... les gens qui disent non, on ne veut plus d'immigration.
Et alors, comment tu expliques ça, ce retournement de cette sorte de convivialité un petit peu plus partagée à quelque chose qui se renferme, oui, là, tout à coup?
Tout à coup, c'est pas tout à coup, mais... on a déjà... les gens disent, on a déjà... ici beaucoup d'étrangers, et on dit souvent on répète ce que Wilders dit, ça suffit, et c'est ça, que avec vraiment 18 millions de personnes dans un tout petit pays, c'est vraiment, quand j'entre aux Pays-Bas, ça se sent déjà dans les autoroutes, il y a toujours, 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 partout, les embouteillages. C'est terrible. Et ça, les gens en ont marre. On dit, ça suffit.
Sur la densité de population.
On le dit, hein, oui, absolument. C'est la densité la plus importante,
absolument,
en Europe. Hein,
ouais. Oui, absolument.
Et c'est pesant, quoi. Toi, ça a été un de tes motifs de départ?
Absolument, mais aussi le fait qu'on était de plus en plus à droite, ça, on dit non, je ne veux plus rester ici, je ne veux plus acheter une maison ici, je veux aller autre part, oui.
Par rapport à la politique
Surtout, oui.
Et donc, le vote à l'extrême droite, est significatif par rapport à l'immigration. Est-ce que tu as senti aussi qu'au niveau de l'ouverture d'esprit, notamment par rapport à l'homosexualité ou par rapport aux droits des femmes, le droit à l'avortement, est-ce que tu as senti aussi qu'il y avait une évolution de ce côté-là?
C'est souvent un peu difficile parce qu'on a un cercle d'amis qui pensent
pareil,
plus ou moins comme toi, sinon ce ne sont pas des amis. Alors, c'est pourquoi c'est un peu difficile, mais l'intolérance, on le sent un peu dans la rue. On n'est plus, comment dirais-je, on n'a plus de temps pour attendre quelqu'un, on n'a plus, oui.
Et par rapport aux droits des femmes, il y a une remise en cause du droit à l'avortement? Comme il peut y avoir dans d'autres pays.
Non.
Bon, c'est déjà une bonne chose.
Ça, c'est déjà bien.
Mais ouais, j'ai l'impression que ce qui se passe en Hollande avec une droitisation de la vie politique, c'est un peu partout pareil dans le monde, malheureusement.
Oui, mais heureusement, il y a d'autres partis. Il ne peut pas, Geert Wilders ne peut pas gouverner seul. Et ce sont les autres qui disent, mais tu promets ça et ça et ça aux électeurs, mais ce n'est pas possible. Il y a toujours la Constitution. Voilà.
qui empêche d'appliquer ce genre de loi. Et il est obligé de faire une coalition pour arriver à gouverner.
Absolument.
Et elle n'est pas encore faite.
Non, il n'y arrive pas pour l'instant.
Il n'y arrive pas.
Il n'y arrive pas.
Et les partis droite, centre, tout ça, n'arrivent pas trop à se mettre d'accord non plus. Et apparemment, moi, j'ai lu qu'il disait que si vraiment ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, mais aux Pays-Bas, vous avez l'habitude de prendre votre temps pour faire des coalitions. Apparemment, ça peut durer plusieurs mois. Et il disait qu'il fallait vraiment trouver une solution parce que si les élections avaient à nouveau lieu, Geert Wilders, ce serait encore plus important.
Je crois, oui. Hein,
c'est ce qu'on dit.
Oui, je crois.
C'est vraiment un phénomène mondial. Quand on,
européen.
Et pas mondial.
Parce que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, ça fait peur. Ce qui se passe en Israël, ça fait. Enfin bon, c'est un peu partout, quoi. Pour revenir à ta vie adulte, alors, pour faire officier de, entre guillemets, protection, tu as dû faire quelle étude ? Qu'est-ce qu'il faut comme bagage pour faire ce travail ?
Ou bien l'université, ou bien une formation supérieure.
Voilà. Et toi, tu as fait quoi comme étude ?
La formation supérieure, dans mon cas, c'était professeur d'espagnol.
Professeur d'espagnol. Et donc, voilà. Tu as fait une formation complémentaire sur le droit des étrangers,
ça,
sur le droit d'asile ?
C'était sur place, oui.
Tu as une formation interne ?
Oui.
Et toute ta carrière, tu l'as fait dans ce...
Oh non, non. J'ai fait beaucoup de choses. Seulement les dernières 12 ans, seulement. J'ai fait énormément de travail à Rotterdam, d'abord. J'ai travaillé comme secrétaire. Mais après 7 mois, j'ai dit, « Oh, je le sais maintenant, je veux changer. » Et heureusement, dans ce temps, c'était dans les années 70, j'avais toujours du travail, toujours.
Donc, tu passais d'un travail à l'autre.
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Secrétaire ?
Secrétaire, mais différentes entreprises.
OK.
Parce qu'après 6-7 mois, j'ai dit, « Oh, j'ai vu ici, je veux changer.
» Alors, tu nous parles des années 70. Je propose qu'on écoute un morceau de musique qui date tout à fait de cette période-là, de quelqu'un qui s'appelle Dick Annegarn. Je dois très mal prononcer. Et c'est une chanson qui s'appelle Bruxelles. Mais il vient bien des Pays-Bas.
Ok, d'accord.
Il vient des Pays-Bas, il chante en français. Et là, c'est une chanson qui s'appelle Bruxelles.
Ok.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris, et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu. Sublime décadence, la danse dépense. Ministère de la bière, artère vers l'enfer. Place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit.
Vous êtes sur Radio Saint-Féréol 94.2 dans une émission de Ici et d'ailleurs avec comme invité José qui vit à Saillant et qui vient des Pays-Bas. Alors, nous avons eu un petit échange pendant le temps musical. Dick Annegard vient bien des Pays-Bas, mais tout le monde dans le studio connaissait, sauf José. Donc, est-ce qu'il ne chantait pas aux Pays-Bas? Est-ce que, comme disait Claire, comme dans d'autres pays, le Québec, je crois que tu disais, Claire?
C'est les Québécois qui plaisantent avec ça en disant « nous, on vous envoie les chanteurs québécois qu'on veut pas écouter ». Et du coup, c'est vrai que ceux qui sont connus en France en tant que Québécois ne sont pas forcément les plus écoutés au Québec. Mais c'était une boutade, c'est pas...
Oui, mais ça a l'air d'être le cas aussi avec...
Pas forcément vrai.
J'ai noté son nom après.
Tu vas écouter.
D'accord.
Mais on m'a dit qu'il venait vraiment des Pays-Bas, même s'il chante en français, okay. Et une chanson qui s'appelle Bruxelles. Donc, on va prendre le temps à rebours, puisqu'on a parlé de ta vie adulte. Tu nous disais, quand on s'est vu la première fois, que tu voulais que ta vie soit belle. Est-ce que tu dirais que ton enfance l'a été?
Oui.
Tu as eu une belle enfance.
Absolument, oui.
Tu avais des frères et sœurs?
Moi, je suis la petite de 5 enfants, oui. Mon frère l'aîné, et puis 4 filles, voilà.
Un garçon et 4 filles.
C'était le roi?
Non.
Non?
Non, ça ne marche pas comme ça. Non.
Très bien. Aux Pays-Bas, il n'y a pas cette différence si marquée, au moins au niveau des enfants, entre garçons et filles?
Sauf qu'ils, nous, en été, on devait comme filles aider ma mère et lui, il pouvait aller. Mais j'ai demandé à ma mère, mais c'était pas juste. Oh, c'était pas le cas. Elle a toujours...
Elle le nie. Elle
absolument. Non, mais c'était vrai. Et ça, je n'ai pas aimé.
Les filles devaient quand même aider et oui. Le garçon
non,
pouvait aller jouer.
Oui.
Oui, c'est, un peu,
quand même.
C'est un peu comme ici.
Chasser le naturel.
Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous décrire la vie d'un enfant aux Pays-Bas, c'est-à-dire les rythmes scolaires, est-ce qu'il faisait du sport, est-ce que c'était découpé comme ici, enfin, ou c'est peut-être que tu ne connais pas comme tu es venu plus tard en France, mais comment ça se passe? C'est-à-dire, il y a cours toute la journée, il y a beaucoup de vacances scolaires.
Les vacances scolaires, moins qu'ici, mais l'école de base, c'était toujours jusqu'à 3 heures environ. D'accord, pas comme ici, jusqu'à 4h30 ou 5h. Et on était d'abord, pendant l'école de base, on habitait La Haye. Et là, par exemple, mes parents étaient protestants et c'était interdit de jouer dehors le dimanche. Et ça, on pouvait marcher avec la famille, oui, mais pas jouer, pas prendre le vélo, par exemple, et non. Ça, c'était interdit le dimanche.
La religion a un poids très fort.
Oui.
Avait un poids très fort. Est-ce que c'est toujours le cas?
Non, absolument. Absolument pas. Non. Mes parents et nous, bien sûr, sont déménagés dans le nord, dans la province de Drenthe. Et ça, on pouvait jouer... Dors le dimanche. Ça, c'était pour nous, c'était super. Oui.
Et comment tu expliques que c'était différent dans cette région?
Peut-être dans une ville comme La Haye, ils ont pensé tous les dangers de la grande ville. C'est ce que je crois. mais je peux avoir tort. Hein. Mais bon, c'est dans le nord, c'était aussi un petit village. Et ça, tout était... Bon, le dimanche, on pouvait jouer dehors. C'était super pour nous.
Oui. Et tu étais dans une... Enfin, où vous étiez, les enfants, dans une école publique ou dans une école privée?
C'était une école protestante.
Protestante, voilà. Et privée, donc.
Oui.
Oui. Et quelle est la proportion entre l'éducation nationale, publique, et l'éducation privée aux Pays-Bas?
Dans le temps, c'était... Ça n'existe plus, mais dans le temps, on avait des écoles catholiques, des écoles protestantes, et bon, des écoles laïques, non?
Laïques.
Oui. Et... Bon, c'était plutôt protestant et catholique. Oui, bien que dans le nord, on dit toujours dans le nord de Rivière, c'était plutôt protestant, et dans le sud, catholique.
Et quelles étaient les relations entre catholiques et protestants?
C'était vraiment divisé, hein. À l'autre côté de la rue, il y avait les protestants. On ne jouait pas avec les enfants catholiques. Il y avait des clubs protestants et catholiques. Maintenant, c'est mélangé, bien sûr, mais autrefois, pas. C'était strictement divisé.
Et l'école publique était importante? Ou il y avait... Il y avait force, enfin...
Moins qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, ça... c'est plus... les enfants vont plus dans l'école...
Oui.
Moins dans des écoles pas... privées.
Oui, oui, voilà.
Et l'adolescence?
C'était
on remonte
bien,
dans
c'était
le temps.
Bien. Moi, j'étais au lycée. Et ça, j'ai bien aimé. C'était très bien. C'était une école où, par exemple, il y avait des élections pour une administration d'élèves. Et ça, c'était très vivant. On a fait des posters et avant les élections. C'était vraiment... On a pris beaucoup de temps pour ça. Et puis, on avait des pièces de théâtre. Moi, j'ai joué dans une pièce de théâtre chaque année. Et, oui, c'était bien. C'était très bien.
Et est-ce que les adolescents, enfin, on voit qu'aujourd'hui, les adolescents sont très préoccupés par la situation internationale, la situation du climat, entre autres. À ta génération, c'était plus l'époque des années 70, où oui. Il y avait des mouvements assez forts contre la oui. guerre au Vietnam, par rapport au Chili. Oui. Est-ce que la jeunesse des Pays-Bas était impliquée dans ces mouvements?
Oui, dans le temps, oui. On avait des démonstrations quand il y avait une guerre quelque part. Oui, oui, oui. Absolument.
Et tu dis dans le temps, mais aujourd'hui, il y a aussi une implication, non? Moins, t'as l'impression?
Aujourd'hui, c'est moins, ouais. Ouais.
Même sur le climat?
La Greta?
Bon, je crois plus maintenant, plus sur le climat qu'avant, oui.
Claire, tu...
Oui, il y a quand même une question assez spécifique à la Hollande qui se pose parce que il me semble que au cours des décennies, la Hollande a développé ce que vous appelez des podlers, c'est ça? C'est ces terres artificielles qui sont faites en créant des digues afin d'augmenter la superficie de la Hollande justement
oui,
pour
oui.
Faire face à la densité de population qui augmente, et au cours des décennies, il y a eu un certain nombre de terres en plus complètement artificielles. Donc ça, dans la gestion des eaux, la montée des eaux, la réorganisation du territoire, etc., avec ces changements climatiques liés aussi aux besoins de la population, elles se posent de façon très, très concrète en Hollande.
Absolument, surtout encore en ce moment avec beaucoup de pluie. Surtout, il y a des digues à côté des rivières, surtout. Mm-hmm. Et puis, dans le temps, dans les années 50, le Delta Plan, ça, c'était très connu.
Oui, oui, ça a été très marquant. Apparemment, voilà. En 53, c'est ça, oui. Où il y a eu une grande inondation, oui, qui a été, mm-hmm, catastrophique, oui, pour les cultures, etc. Oui. Et que ça a marqué vraiment beaucoup les esprits.
Oui, c'est pourquoi après, on a construit ce Delta Plan, oui. Mm-hmm. Mm.
Et oui, parce que être pays bas, parce que c'est le pays le plus bas, oui, 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 de l'Europe.
Absolument.
Et,
oui.
Et oui. Donc là, les questions se posent, oui, particulièrement.
Oui.
José, je voudrais revenir donc dans ton histoire. Enfin, on a parlé du travail tout à l'heure. Et quand on s'est vu la première fois, tu nous as parlé des différences de relations professionnelles que tu as pu remarquer entre ce qui se passe en France et ce qui se passe aux Pays-Bas.
Oui.
Donc, quelles étaient vos conditions de travail, en fait?
Toujours très bien, toujours pas formel du tout, on se tutoyait toujours, il n'y a pas certaine hiérarchie comme ici, je crois, ça c'est la grande différence.
C'était moins hiérarchisé, mais oui. Et c'est pas, tu l'as ressenti, donc comme tu disais, tu avais un peu la bougeotte, tu, mm-hmm, passais d'un travail à l'autre, et tu l'as remarqué, c'était général.
Absolument, oui.
C'est-à-dire comment, oui, c'est, par exemple, bon, tu tutoies les patrons, vous,
oui,
vous
absolument,
plus de convivialité, vous, oui, faites des 5 à 7 et des...
Oui, j'ai même une fois...
Il faut que tu nous expliques parce que...
Oui, mais j'ai même une fois dit à mon chef, mais bon, je ne suis pas ici pour toi, je ne suis pas ici pour le travail, je suis ici pour mes collègues. C'est un choc, c'était un peu un choc pour lui, mais bon. Mais c'était vrai, oui. Et les choses, ces choses comme ça, on pouvait dire. Et quand il y a quelque chose que tu n'as pas aimé, on pouvait toujours dire.
Et à l'inverse, ouais, est-ce que les membres hiérarchiques prennent beaucoup plus en compte la vie des salariés?
Oui. Je crois, oui. C'est plus relâché, c'est plus... Oui, c'est pas tellement formel. Entre les employés et les chefs, voilà. Oui.
On va passer un morceau de musique que tu nous as demandé, un de tes compositeurs préférés, d'après, mm-hmm, ce que j'ai compris. Les gens vont peut-être reconnaître, sinon tu nous le présenteras après.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Saint-Ferréol 94.2 dans une émission Ici et d'ailleurs. Et nous sommes avec José, notre invité, qui vient des Pays-Bas et qui vit à Saillant. Alors, on a pas mal parlé du travail et de la différence entre la France et les Pays-Bas, mais hors micro, comme ça se passe souvent, tout le monde est intervenu pour dire des choses très intéressantes. Donc en fait, José, je vais te demander si tu peux redire ce que tu disais pendant la musique. Peut-être nous dire déjà quel morceau c'était de musique, quelle composition.
C'était, bien sûr, les gens qui connaissent Beethoven ont reconnu, hein. Mais c'était un des symphonies.
La septième. La septième.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pas la sixième, parce que je l'ai entendu ce matin. Ok.
Et tu disais que cette différence dans les relations professionnelles, tu le sentais très fort, et même dès qu'on partait des Pays-Bas. Tu parlais de la Belgique.
Oui.
Tu peux nous redire pour les auditeurs, en fait, parce que c'est assez surprenant.
Parce que j'ai travaillé, entre autres, pour l'entreprise Heinz. C'était le service de marketing Europe. Et ça, pour ça, les Belges, les Espagnols, les Français venaient chez nous. Et surtout les Belges, bon, c'est une différence de 20 kilomètres de où j'habitais. Ils étaient tellement jaloux de notre ambiance, pas formelle du tout. Et aussi le fait qu'on pouvait travailler, par exemple, 3 jours par semaine, pas une semaine complète, 3 jours, 4 jours, il y avait chez nous beaucoup de gens qui vont travailler à temps partiel, oui.
Et avec des salaires qui permettaient de vivre.
Oui.
Malgré le temps partiel.
Oui, mais souvent aussi, par exemple, et c'était aussi les hommes et les femmes qui l'ont fait, on travaille 4 jours de 9 heures par jour. Alors, on a aussi le 36 heures par semaine, alors. Et ça, on a fait beaucoup. Oui.
Temps de travail, 36 heures, la moyenne, en général.
En général, ou bien 3 jours par semaine. Moi aussi, j'ai travaillé 4 jours. Et c'est pourquoi j'ai pu donner les classes dans l'université populaire. Sinon, je n'ai pas pu faire ça. Oui.
Parce que tu étais prof à l'université populaire.
Oui, dans plusieurs villes, oui.
Et prof de ?
Espagnol.
Espagnol. Ok. Tu nous as dit que tu avais quitté les Pays-Bas pour des raisons politiques, entre autres, aussi que tu ne supportais plus cette densité de population. Mm-hmm. Est-ce que tu es venu directement dans la Drôme ?
Parce que c'est ma sœur qui habitait là et maintenant on habite à côté. Et ça, elle a choisi la Drôme parce que c'était la région où on avait, c'était la première région qui avait l'agriculture bio. Et c'était mon gendre qui travaille là-dedans. C'est pourquoi. Oui.
C'est pour ça qu'ils sont venus dans la Drôme.
Mm-hmm. Oui.
Et eux sont arrivés quand ?
Oh, 2003, oui. Et on a acheté notre maison en 2003 ensemble, oui. Et on est venus tout le temps en vacances.
Donc tu connaissais bien avant d'arriver.
Oui.
Et tu fais quoi à Saillant ?
À Saillant.
Ou à Saillant ou dans la Drôme, est-ce que...
Oui. Bon, je fais partie du club de marche. Aussi d'une chorale. Et qu'est-ce que j'y fais encore? Bon, je vais souvent au cinéma à Cré.
Et
en plus, J'aime beaucoup rester chez moi parce que je suis une liseuse et de journaux et de livres et d'écouter la musique, bien sûr. En plus, je fais l'espagnol le samedi matin avec quelques amis. C'est seulement parler ensemble, c'est
de la conversation.
Simplement pour ne pas oublier, voilà.
C'est intéressant. Je vais quand même parler de quelque chose que tu ne cites pas, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque en fait, pas Claire, mais les autres personnes de notre émission sont impliquées dans une association à Cray, et toi aussi.
Bien sûr.
on allait oublier.
Oh, mais tu as parlé de Saillant, hein. Et c'était pas Saillant, c'était à Cray.
Autant pour moi, c'était à Cray. Donc en fait, on est toutes, on fait toute partie des restaurants du cœur. Mm-hmm. Donc ça fait combien de temps toi que tu y es?
11 ans, presque 12 ans. Oui.
Presque 12 ans. Oui. Et tu fais quoi au restaurant du cœur? Tu t'occupes de quel
fromage pour le moment?
Mais la distribution, alors
la distribution de oui, mais de temps en temps je change un peu, pas toujours la même chose, voilà.
Et on peut en profiter pour dire que c'est bientôt la collecte des oui. restaurants du cœur.
Oui, oui, oui.
Sylviane, qui s'occupe plus de cette question-là, tu peux nous dire quand est-ce que ça a lieu?
Alors, c'est cette fois-ci une collecte nationale et ça a donc lieu le vendredi 1er mars et le samedi 2 mars dans beaucoup de magasins de Cray et autour de Cray, puisqu'on va à Grane, Huppy, Chabeuil. Tout le monde est le bienvenu, parce que aussi bien en tant que donateur qu'en tant que bénévole, parce que bien sûr, nous devons assurer tous les créneaux dans les magasins. Des créneaux de 2 heures en général. Et si ça vous intéresse, même néophyte, on vous donnera un créneau avec une personne qui sera parfaitement formée. Et vous pouvez faire des créneaux donc de 2 heures dans tous les magasins autour de Cray. Vous êtes toujours les bienvenus.
Voilà pour l'information Restaurant du Cœur. José, dans la Drôme, est-ce que... Par rapport à, on disait tout à l'heure qu'aux Pays-Bas, il y a une grande richesse culturelle. Est-ce que dans la Drôme, tu t'y retrouves sur les questions culturelles?
Même à Saillant, il y a un théâtre, il y a un endroit où on fait de la musique, alors les chorales, écoles de musique pour les enfants. Il y a beaucoup de choses à faire, voilà.
Et tu peux nous décrire un peu la chorale dans laquelle... comment ça se passe?
C'est
à Saillant même?
Oui, et c'est les Chants du Monde. Et c'est un chorale, on est environ 20, 25, oui.
Oui, quand même.
Oui, oui, oui. Et il y a 3 femmes qui dirigent la chorale. Et c'est une femme colombienne et l'autre est polonaise et l'autre est française. Et elle est chanteuse professionnelle. Et bon, les 3 sont formidables. Et elle nous motive énormément. Tout le monde est tellement enthousiaste. C'est super, oui.
Et vous chantez en français ou dans d'autres
non,
langues?
Non, non, pas français.
Ah, pas français mais... du
tout. Ah, oui. Toutes les langues sauf le français.
Voilà, c'est ça. Oui.
C'est mm-hmm. Le français est interdit?
C'est
pas le choix.
Non,
c'était
pas une blague. Tellement, non, mais on ne fait pas le français, peut-être okay. Pour les dirigeantes qui préfèrent l'espagnol ou une des langues de l'Europe de l'Est, oui.
Bon, vous apprenez bien. Phonétiquement, alors? Comment vous apprenez?
Non, on a le texte, mais ma sœur et moi, on ne veut plus apprendre par cœur, parce qu'on dit après 75 ans, on oublie tout.
Donc ça ne sert à rien d'apprendre, parce que de toute manière, on ne s'en souviendra pas le
lendemain. Le lendemain, on l'oublie. On a oublié.
Pourtant, ça fait bien travailler la mémoire.
Voilà, c'est ça. C'est vrai.
Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu des cabaretiers.
Tout à fait.
Pour finir. Donc, quand on s'était vu, tu nous avais parlé de la différence entre l'humour anglais et l'humour français. Est-ce que tu peux nous en reparler? Puis après, on décrira un peu les cabaretiers.
Oui. Oui, c'est le cabaret ici qui est complètement différent du cabaret. Les cabaretiers, surtout, c'est souvent une personne. Peut-être de temps en temps deux, mais c'est une personne qui a une conférence sur la politique, surtout sur la politique. Et c'est pourquoi je n'ai pas trouvé un exemple, parce qu'il faut connaître aussi les politiciens. Sinon, si on ne connaît pas, on ne comprend pas les
on ne comprend pas l'humour.
J'ai dit le chiste, mais c'est espagnol. L'humour, oui, voilà.
Et donc, quand tu as vu des cabarets en France, pour voir la différence d'humour, de choses comme ça? Parce que c'est quoi la différence entre l'humour anglais et l'humour français? Bon, ça ne doit pas être facile à expliquer, mais...
Oh, c'est difficile à expliquer, mais je peux le comparer avec ma sœur qui rit des choses que moi, je ne ris pas. Et je ne comprends pas si c'est de l'humour, mais c'est vraiment, je crois que c'est difficile à définir
la différence.
Exactement, la différence, mais c'est ce que je dis, c'est l'humour néerlandais est plutôt direction l'humour anglais. Mm-hmm. Oui. Comment dirais-je un peu?
C'est difficile à voir. C'est compliqué.
C'est difficile à
comprendre. On le perçoit quand on l'entend, en fait.
Oui,
c'est vrai que quand on
ça.
Entend des Anglais raconter des blagues ou des choses comme ça, on ne rit pas forcément au même endroit, quoi.
Oui. Oui, je cherche maintenant un exemple anglais. C'est... Oh, non. Ça ne vient pas.
On arrive bientôt à la fin de notre émission. Est-ce que tu aurais d'autres choses dont tu as envie de parler sur la différence entre les Pays-Bas et la France, ou d'autres choses que tu voudrais rajouter?
Il y a peut-être d'autres choses, mais...
On a fait le tour.
Ce que je trouve dans les autoroutes, ou même pas seulement les autoroutes, les chemins... que j'ai fait souvent de Saillant-Ocray, les Français ne respectent pas la vitesse. Et moi, j'ai fait souvent 83, parce que j'ai fait respecter, mais pas trop. Bon, 83, c'est bien pour moi.
Tu dépasses, mais raisonnablement.
Non, mais j'ai peu le sur... j'ai un régulateur, comment ça s'appelle?
Oui, régulateur.
Et je le mets là-dessus, sinon... mais tout le monde me double. Vraiment tout le monde.
Je crois que par rapport aux pays nordiques, on nous dit, nous, les Français, plutôt latins. Et je pense qu'au niveau du respect des lois, on est toujours un petit peu...
C'est vraiment... Oui, oui.
C'est quelque chose que tu as ressenti.
Absolument, c'est toujours moi qui... c'est vraiment, mais tout le monde... me double. Et quand je viens une fois aux Pays-Bas, entre Metz et Nancy, c'est terrible ça. Et j'ai deux fois déjà eu un PV parce que je roulais 6 km trop. Et ça, c'est frustrant!
C'est vraiment
on est tous d'accord là-dessus. On est d'accord. C'est le mot de la fin. On termine là-dessus.
D'accord, oui.
Et merci beaucoup, José.
Avec plaisir.
Et puis, on se retrouve au Resto du Cœur la semaine prochaine. Sylviane était à la technique avec Christina. Et dans le studio, il y avait Claire, José et moi.
Sarah.
À bientôt, moi Sarah.
À bientôt.
Et pour terminer, comme on a parlé des cabarets, je vous propose d'écouter Lisa Minnelli dans Cabaret.
Voilà.
Ah. Au revoir. International, Sensation, Fräulein Sally Bolsch.
sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea when